On est très heureux d'accueillir avec Fanny Dantez, qu'on vous a présenté tout à l'heure, de l'Institut des savoir-faire français, Mathilde Voilez du GIP FIPAN, qui est déjà intervenue tout à l'heure, et deux invités à l'honneur, donc Anne Leschazinski de la Verrerie de Biot, qu'on est très heureux d'accueillir et qui nous a fait l'extrême gentillesse de sa présence aujourd'hui et de sa présence sur l'ensemble de la journée. Donc merci beaucoup Anne, et c'est très généreux de nous offrir ce temps et d'être avec nous. Et nous y sommes très sensibles. Et Michael Jousserand de la chambre syndicale de la facture instrumentale, qui est aujourd'hui parmi nous, qui par ailleurs est aussi à l'entreprise Buffet Crampon, mais qui représente aujourd'hui la chambre syndicale de la facture instrumentale, dont il va aussi nous parler. Alors l'objectif de cette table ronde aujourd'hui, c'était de revenir. On a eu beaucoup de thématiques aujourd'hui qui sont arrivées autour de cette journée sur le geste. Donc on va travailler sur cette table ronde ensemble en essayant de balayer un certain nombre de problématiques avec nos intervenants et grâce à nos intervenants, parce que notre objectif, évidemment, dans les journées d'accélération, c'est, vous l'avez compris, d'essayer déjà d'une part de donner un scope pour que l'ensemble de la collectivité puisse accéder à des connaissances, à des projets en train de se faire, à des initiatives, pour qu'on puisse les partager évidemment, pour qu'on puisse, comme le disait Thomas Morisset en tout début, arriver à des points de définition, comme le répétait Alina, à arriver à des nouvelles connaissances. Et donc ça aussi, c'est un des points fondamentaux, je pense, dans le cadre du programme ICAR. Et puis ça va nous permettre aussi, dans notre stratégie avec Fanny, avec Élise, avec Clara et avec Alina, de construire les prochaines journées, d'essayer d'avancer et d'avoir une perspective à moyen long terme, parce qu'on a des projets qui démarrent, mais essayer de voir, de penser un peu collectivement comment on peut, à moyen long terme, définir des grands enjeux, arriver à définir des stratégies, et lors de prochaines journées d'accélération, voir comment on va faire émerger de nouvelles thématiques. Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer ces questionnements et ces lancements de chantier avec Fanny Dantez pour l'Institut des savoir-faire. Et Fanny, ce que on te propose de voir avec nous, c'est de démarrer peut-être avec quelques chiffres clés. Et comment, grâce à un rapport assez récent de l'Institut, on voit émerger ces nouvelles thématiques, justement.
Merci beaucoup, Jean-François. Oui, donc peut-être pour commencer, je vais faire une rapide présentation quand même de l'Institut pour les savoir-faire français, qui est une association de droit privé reconnue d'utilité publique qui a été fondée en 1889 sous le nom de Société pour l'encouragement à l'art et à l'industrie. Et qui s'appelait aussi auparavant l'Institut National des Métiers d'Art, que vous connaissez peut-être aussi sous ce nom-là. Donc on a changé de nom l'année dernière, et donc les missions de l'Institut sont orientées sur la reconnaissance et la pérennité des métiers d'art et savoir-faire d'exception. Et nos missions sont centrées autour de trois grands axes. Alors je vais faire assez rapide, hein, c'est pas l'enjeu aujourd'hui de présenter l'Institut, mais c'est pour cadrer un petit peu le sujet. Le premier, c'est faire rayonner ces métiers et ces savoir-faire, notamment dans un but d'encourager aussi les vocations vers ces métiers, de les faire perdurer. On a des forts enjeux de transmission des entreprises, des savoir-faire, qu'on a déjà un petit peu évoqué aujourd'hui, et également de faire grandir les entreprises et les détenteurs de ces métiers, de ces savoir-faire, donc pouvoir accompagner les entreprises, mais également ceux qui œuvrent au service de ces entreprises. Donc ça, ce sont les trois grandes missions de l'Institut. Et tu peux passer du coup, Jean-François. Voilà. Donc effectivement, comme le disait Jean-François, on a conduit Alors, ça a été restitué en novembre de l'année dernière, 2024, une grande étude pour mesurer le poids économique de ces métiers. Puisque de quoi on parle, en fait, quand on parle de métiers d'art, savoir-faire d'exception, en fait, ce sont des métiers qui sont centrés sur, ce sont des activités de création, fabrication ou restauration du patrimoine, qui sont centrés sur la maîtrise de gestes et de techniques, le plus souvent manuelles, qui sont basés sur une transformation de la matière. Donc ça, c'est un peu la définition de ces métiers. Et en fait, il regroupe beaucoup de filières très différentes. On a eu beaucoup d'exemples ce matin de métiers très différents. Donc c'est un périmètre qui est très large et sur lequel il a toujours été assez difficile d'obtenir des données économiques en raison de toutes ces filières impliquées, mais également en raison de la diversité des entreprises et de leur taille, puisqu'on va de l'entreprise unipersonnelle artisanale en passant par la manufacture, la PME, aux grandes entreprises du luxe. Donc c'est très très vaste. Donc l'idée de cette étude, les éclaireurs qu'on a pu réaliser grâce à l'appui technique de Xerfis spécifique, donc qui est un cabinet d'études économiques, et grâce au soutien de nos partenaires, donc le ministère de la Culture, la Fondation Bettencourt-Schueller, le comité Colbert et Terre et Fils, on a pu obtenir ces données économiques aujourd'hui qui montrent en fait tout le poids de ces métiers en France. Donc on est sur 234 000 entreprises sur le territoire français, un demi-million d'actifs, donc chefs d'entreprise et salariés, dont 280 000 salariés. Et on a un chiffre d'affaires cumulé qui est assez important, puisqu'on est sur 68 milliards de chiffre d'affaires. Et un taux de valeur ajoutée aussi, c'était un peu une surprise de l'étude qui est plus élevée dans ces métiers que pour la moyenne nationale, puisqu'on est à 34% de taux de valeur ajoutée. Voilà, donc on voit que c'est quand même un secteur de poids qui est parfois un peu trop rattaché ou un volet traditionnel. Et en fait, on ne mesure pas le poids de ces métiers aujourd'hui en France. Donc c'était tout l'enjeu aussi de cette étude. Tu peux effectivement passer à la suite. Je vais essayer de faire un peu plus rapide. Il y a un fort ancrage territorial de ces entreprises, parce que 8 entreprises sur 10, 80% des salariés sont dans les territoires. C'est ce qui a permis de refléter l'étude. Ce sont des métiers aussi qui attirent des profils assez divers. On a 4 dirigeants sur 10 qui sont issus d'une reconversion professionnelle. 55% de dirigeants qui sont des femmes. Donc là aussi, on est bien au-delà de la moyenne nationale. Et puis on attire aussi, ce sont des métiers qui attirent tout de même les jeunes, 38% de salariés qui ont moins de 35 ans. Donc ça, ce sont quelques informations qui révèlent un peu les profils de ces métiers-là. Et si tu peux passer, voilà un peu sur les grands enjeux aussi de ces métiers, de ce périmètre. C'est que nous sommes sur des enjeux de transmission qui sont assez importants, que ce soit en termes de transmission des entreprises, puisqu'aujourd'hui on a un certain nombre de dirigeants qui ont plus de 55 ans, et on s'est rendu compte via l'enquête qu'ils sont assez peu nombreux à s'être intéressés à la transmission de leur entreprise, moins de 20% d'entre eux. Et c'est un chiffre-là qui concerne uniquement les entreprises employeuses, c'est-à-dire qui ne concerne pas les entreprises individuelles. Donc ce qui est plutôt assez faible, en sachant que la transmission d'une entreprise, souvent, nécessite quand même une préparation et plusieurs années. Donc c'est un enjeu assez important. Et puis on a aussi quelques indicateurs qui sont intéressants et révélateurs de tout l'enjeu aussi de la transmission des savoir-faire, dont on a déjà parlé au cours de cette journée. Donc un quart des salariés qui ont plus de 55 ans. Là aussi on est un peu au-dessus de la moyenne nationale. On a aussi assez peu de recours à l'apprentissage dans ces métiers, qui peut apparaître pourtant comme le mode de formation le plus adapté pour la transmission des gestes et des savoir-faire. Voilà, et pourtant, on n'a que 63% des entreprises employeuses qui ont des apprentis aujourd'hui. Et aussi, autre fait révélé par l'étude, c'est que 39% des dirigeants déclarent qu'il y a au moins un métier, un savoir-faire dans leur entreprise qui ne fait pas l'objet d'un diplôme ou d'une certification. Donc là, on est quand même sur des données qui peuvent nous alerter un petit peu sur un risque de disparition de certains savoir-faire ou en tout cas une complexité particulière pour ces métiers sur les sujets de transmission, que ce soit du savoir-faire ou de l'entreprise. Et puis dernière donnée, je vais m'arrêter là. Après, l'étude est bien plus riche. Ce sont quelques données clés, mais je vous invite vraiment à consulter l'entièreté de l'étude qui évoque aussi plein d'autres sujets. Mais on a posé la question aux chefs d'entreprise de savoir quels étaient les enjeux prioritaires pour eux au cours des deux prochaines années. Et pour plus de la moitié d'entre eux, ce qui arrivait en premier, c'est la valorisation des métiers et des savoir-faire. Donc c'était vraiment le premier enjeu qui est ressorti, ce qui montre aussi toute l'importance et la conscience des professionnels eux-mêmes de l'importance de leur métier, de leur valeur aussi culturelle, patrimoniale pour l'économie de la France et pour le pays. Voilà en quelques mots.
Merci beaucoup Fanny, je crois que ce sont des données vraiment très 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 importante, très intéressante, et tu l'as dit toi-même aussi, l'avantage de ces données, c'est qu'elles font apparaître des éléments ou des indicateurs un peu insoupçonnés, ou en tout cas, quand on voit par exemple sur le dernier tableau qu'on se trouve avec des métiers ou des savoir-faire 39% sans certification, c'est effectivement quelque chose qui doit nous interroger, mais qui correspond peut-être aussi à des mutations actuelles qui font que on le voit aussi apparaître dans d'autres secteurs, on va dire peut-être un peu moins traditionnels ou un peu plus industriels, où les compétences circulent, ou en tout cas on voit apparaître des certifications nouvelles, je pense à d'autres niveaux. Je vais revenir sur le dernier indicateur. Plus de 50% des entreprises et des dirigeants considèrent la valorisation des métiers et des savoir-faire comme une priorité. Ça me permet de vous poser la question, vous passer la parole Anne Chazinski pour la verrerie de Biot. Je crois que c'est une des problématiques qui est un peu au centre aussi de la verrerie, la valorisation du métier, la valorisation de l'entreprise, et comment l'innovation pour vous est devenue aussi un des piliers de cette valorisation.
Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que souvent on nous qualifie de vieux métiers, les métiers d'art. La complexité de nos métiers et surtout la passion des gens qui sont dans nos métiers font que souvent on a du mal à faire comprendre ce que l'on fait, comment on le fait. Et c'est une problématique. Nous avons, nous, dès le début, du fait qu'on nous sommes sur la Côte d'Azur, notre métier, notre usine, notre savoir-faire, on s'est tout de suite ouvert au public parce que c'était notre première clientèle captive. Et nous avons travaillé, les innovations sont venues dans notre métier qui est le soufflet-bouche du verre bulé. Nous avons un geste millénaire puisque nous sommes maintenant le geste verrier. Inscrit au patrimoine immatériel d'humanité depuis décembre 2023. Donc ce geste a plus de 2000 ans, on doit le préserver. En même temps, on doit faire comprendre que notre métier d'art n'est pas un vieux métier, que c'est un métier qui attire les gens, c'est un métier, le verre, c'est indispensable à la vie. Donc il y a tout un tas de facteurs qui sont pas évidents pour être dans ce monde 5.0, comme on l'appelle, ou 4.0, 3.0, peut faire croire aux gens que les métiers d'art n'en font pas partie. Or, on en fait partie, même si d'un côté je dois préserver le geste, je suis dans mon temps, quel qu'il soit, j'ai toujours été dans mon temps. Le souffleur de verre a été jadis un gentilhomme parce que il devait chauffer son four avec du bois, donc il a été nommé gentilhomme, etc. Donc si vous voulez, on s'est toujours adapté au temps moderne, mais maintenant il était important de le faire savoir. On a cette chance quelque part dans mon métier et dans le métier de la verrerie de Biot, c'est que nous sommes ouverts au public. Donc j'ai une audience captive qui est là et je dois leur montrer que nous sommes modernes. Mes gestes sont anciens. Et donc, nous avons pris la casquette de se dire, on va faire une visite en réalité augmentée. Pas virtuelle, je ne mets pas de casque. Vous venez chez nous, vous scannez des QR codes et vous placez un avatar qui va vous raconter une histoire. Et là, vous rentrez dans une technologie complètement surréaliste par rapport à ce que vous avez en face de vous, pour certaines personnes, mais qui font bien comprendre que le monde est là. Nous sommes les métiers d'art dans le même monde que le monde 4.0. Et on met un avatar, on voit le verrier qui travaille, et on le met dans l'endroit où il est en ce moment en train de travailler. Grâce à l'IA, il parle 15 langues couramment. C'est sa voix, c'est extraordinaire, c'est une technologie extraordinaire. Et on s'est aperçu qu'avec cela, eh bien justement, d'un coup, les journalistes, qui sont quand même le vecteur pour faire connaître nos métiers, ne parlaient plus des vieux métiers, mais parlaient de la verrerie 4.0. Et ça s'est passé en un switch. Et les jeunes qui viennent nous visiter, parce qu'ils viennent avec leurs parents, qui souvent restaient plutôt à l'extérieur ou allaient au bar en face, etc., eh bien, d'un coup, sont attirés par ces nouvelles technologies, parce qu'ils n'imaginaient pas que finalement nos métiers peuvent mélanger les deux. Donc, si vous voulez, nous, on a cette chance de pouvoir vraiment mettre quelque chose de très, 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 très high-tech, préserver notre geste, le faire mieux comprendre, transmettre à un plus grand nombre encore, parce que on peut mettre un nombre de langues incalculables. Et si vous voulez, cela, je pense, va permettre de transmettre ce savoir-faire. Parce que dans notre société, c'est pas le tout d'avoir un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et ça, c'est un enjeu très important. Et c'est vrai que pour nous, on a envie que cette expérience-là continue, suive, soit pas la fin d'une histoire, mais juste le début de voir comment on peut l'appliquer aussi à autre chose. Comment, pour le CERFA, répertorier le geste du souffle du verrier avec des capteurs, etc. Tout cela est dans la même logique. Et c'est vrai que c'est important de travailler tous ensemble. C'est important que vous nous réunissiez pour savoir ce que fait chacun d'entre nous dans son coin, pour qu'on puisse mélanger et justement faire en sorte de faire des choses encore plus grandes. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Anne. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir qui est très important, c'est innover pour faire savoir finalement et pour transmettre. Parce que la médiation technologique, on va attirer déjà le regard, on va attirer l'intérêt, puis on va attirer cette envie de transmission. Et cette articulation entre innovation et transmission, je pense qu'elle est aussi au cœur du GIP FIPAN. Et Mathilde, tu peux nous en dire quelques mots. On a déjà parlé du projet ressources tout à l'heure, mais revenir sur cet aspect transmission et comment la participation à un projet de recherche peut être justement un levier de transformation à ce niveau-là.
Et tout à fait, mais je voudrais rebondir aussi sur ce que vient de dire Anne, parce que c'est dans le cadre du projet ressources, comme je l'ai mis. Donc on avait l'idée du projet, on a construit ensemble l'idée, le plan d'action du projet, mais on a voulu, au-delà du premier diagnostic qu'on avait fait avec les partenaires du consortium, on a voulu faire un diagnostic plus approfondi des usages et besoins justement des professionnels. Et des professionnels des métiers d'art. Et pour ça, on avait organisé le 9 et le 10 octobre à Paris un séminaire auquel sont venus énormément de professionnels métiers d'art. Et pas uniquement, donc des professionnels en atelier, mais également des responsables de ressources humaines dans des manufactures, mais également des formateurs dans des formations métiers d'art, parce que et vraiment pour identifier ces besoins. Et on s'est aperçu de deux enjeux dont on avait l'intuition, mais qu'on n'avait pas forcément complètement identifié, sur lesquels, en tout cas, on n'avait peut-être pas prévu de travailler avec la même intensité, qui sont, quand on parle d'innovation et quand on parle justement de savoir-faire millénaire, d'interaction homme-matière, il y a cette question de l'acceptabilité de la technologie et de l'innovation dans des métiers qui sont basés justement sur la tradition, sur le patrimoine et sur la transmission de savoir-faire. Et c'est un vrai enjeu. Certes, à ce séminaire, et ici, on voit pas mal de personnes qui sont déjà engagées, que ce soit au travers du projet Chronospedia, que ce soit au travers de la Vérite Biote. On voit des personnes qui sont déjà engagées sur cette question, qui sont déjà convaincues. Mais il y a un vrai travail de lever des freins, de lever des inquiétudes sur quelle place va avoir demain la machine IA. Et donc, on a décidé de s'emparer de ce sujet-là, de l'acceptabilité des technologies et de montrer que la technologie n'est pas forcément un remplacement, mais peut être beaucoup d'autres choses au service justement de la visibilité des métiers d'art. Et donc les deux autres points qu'on avait ressortis, c'était la question de l'accessibilité de ces technologies. Et je pense que ce que vous évoquez est hyper important. On a beaucoup de métiers qui sont d'entreprises, les chiffres sont très parlants. On a beaucoup d'entreprises unipersonnelles. Comment une personne seule dans son atelier peut se former par elle-même à l'usage de technologies pour les intégrer dans son atelier? C'est un enjeu qui est considérable. Et donc, il va falloir accompagner par des structures extérieures. Mais il va falloir aussi mutualiser, mettre en commun et faire du commun. Et donc là, il y a un autre enjeu, et avec notamment la Chambre des métiers d'Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont choisi un peu de s'emparer de ces deux sujets, de l'acceptabilité et de l'accessibilité, et de travailler justement sur comment on met en commun. Et dans le cadre du projet ressources, les outils technologiques dont on souhaite se doter, on souhaite les mettre dans des espaces où ils soient accessibles, justement aux professionnels des métiers d'art, sur par exemple les plateformes des lycées professionnels. Et je reviens du coup au dernier enjeu qui est celui de la transmission, parce que je pense que c'est très important. On a beaucoup parlé de la transmission et de l'apprentissage et de comment ces technologies peuvent nous soutenir sur la question de la transmission et de l'apprentissage. Et vous avez soulevé un autre point qui me semble aussi essentiel, qui est celui de la visibilité des métiers. Il y a un morcellement énorme des métiers d'art. Il y a une diversité extraordinaire des métiers d'art, ce qui ne leur donne pas de visibilité auprès des apprenants potentiels. Et donc, de faire savoir, comme vous le faites, c'est-à-dire de donner de la visibilité aux métiers au travers d'outils d'innovation, auprès des jeunes notamment, ça donne finalement de la visibilité à ces entreprises, commercialement parlant, mais également en termes de recrutement et d'attirer les jeunes vers des filières qui sont peu visibles pour eux au final. Voilà, donc je voulais...
Merci Mathilde, c'est d'autant plus important parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de la définition de ces gestes techniques, de l'émergence de beaux gestes, en fait, d'une valorisation de métiers, d'un usage qui devient plus prégnant et qui montre des carrières qui s'accomplissent sans passer forcément par des constructions complexes, d'études, même si aujourd'hui tous les métiers, je crois, suivent des constructions assez complexes de savoir et de compétences. Et ça, c'est important. En termes d'usage, en termes de besoins aussi. Et ces enjeux-là, on va les retrouver avec vous, Michaël, au sein de la chambre de la facture instrumentale. Et justement, on va retrouver ces enjeux de transmission, peut-être d'innovation, mais aussi on regarde l'évolution de ce secteur en introduisant des problématiques, notamment sur les matériaux et sur les usages et les besoins.
Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, la photo n'a pas été prise hier. Donc déjà, je voulais remercier Jean-François et tout le monde ici présent pour nous avoir conviés à cette table ronde. Pour être parfaitement honnête, donc je représente aujourd'hui la chambre syndicale de la facture instrumentale, qui réunit une soixantaine d'adhérents et qui regroupe principalement des entreprises et des associations, tout type de famille d'instruments confondus. Ça représente, ça reste modeste, mais c'est quand même 3000 emplois sur 6500 au total en France. Vous savez lire, on est représenté partout dans toute la France. Donc c'est vraiment un point commun qui est assez commun dans les métiers d'art, c'est-à-dire comme on l'a vu juste avant, où on avait 80% hors région parisienne, bah c'est un petit peu notre cas aussi. Et donc on est une organisation professionnelle en lien avec différents ministères, malheureusement il le faut pour survivre, j'ai envie de dire, et des institutions internationales, et avec aussi beaucoup de structures partenaires, comme les métiers d'art. Oui, donc je voulais vous dire que en fait, on ne vous connaissait pas du tout, on n'avait pas identifié ce projet. Moi, depuis ce matin, je ne fais que apprendre des choses. Du coup, à cette heure-ci, ça commence à être très dense, mais j'espère qu'il reste un petit peu de place. Et en fait, tout ce que j'ai entendu sur toutes les présentations, à chaque fois, il y a des choses qui me parlent et qui nous parlent. Donc, la facture instrumentale, c'est un métier d'art. Et en plus, dans la facture instrumentale, il y a aussi plusieurs métiers d'art, style le factage ou autre. Bon, il y a un ouvrage qui a été réalisé qui référence tous les métiers d'art, qui est beaucoup plus précis que moi. Et donc, pour, c'est sûr qu'on a des nouveaux challenges auxquels il faut faire face. Alors, je vais peut-être... sur ACSFI, quand même, je dois dire que... on a aussi une présidente. Donc, comme on l'a vu aussi dans les chiffres annoncés, ben, on est un secteur d'activité où c'est plus que la parité. On a souvent même plus de femmes que d'hommes qui dirigent ces secteurs. Et la présidente a la particularité d'être une luthière d'instruments du Quatuor à Nantes. Donc c'est une entreprise, on parlait de toute petite entreprise tout à l'heure. Donc elle travaille, elle, son mari, et ils ont quelqu'un qui prenne à côté. Donc le temps qu'on fait à chercher des subventions, essayer de faire la recherche ou autre, ben, c'est du temps où on ne travaille pas pour sa propre production et donc de l'argent qui ne rentre pas. Et donc c'est une personne qui est bénévole, qui est présidente de l'association, qui est quand même assez importante et qui, si vous allez sur le site de la CSFI, et je vous invite à le faire, vous verrez toutes les actions qu'on essaie de mener pour notre secteur, notre filière. Et ben c'est du temps bénévole, enfin altruiste, j'ai envie de dire. Et heureusement, il y a encore des gens qui le sont. Bon, après dans les vice-présidents, on a Geoffroy Soler qui fait partie de Henri Selmer, donc c'est les saxophones, Coltrane, tout ça. Donc on va dire des entreprises plus importantes qui ont un rayonnement international. On a aussi Yamaha, pas besoin de présenter. Ils font pas que des bateaux ou des motos, ils font aussi des instruments de musique. Et puis on a aussi un magasin de musique à Perpignan avec Chantal Gombert. Donc ça c'est nos trois vice-présidents. Oui, ça fait beaucoup de vice-présidents, mais on essaie d'avoir la représentativité la plus grande possible. Et le trésorier, c'est Bernard Maillot, qui est le fabricant qui travaille pour l'entreprise Savarez, qui est aussi un fabricant de cordes en France. Et voilà, ça fait partie des belles maisons. Je voulais juste rajouter qu'on a 9 commissions. C'est pareil, c'est assez énorme. Je ne sais pas si je vais toutes les citer. Bon, je vais essayer rapidement. Mais alors, et on a une commission pour le développement de la pratique instrumentale, une commission pour les luthiers et facteurs de France, parce qu'on a créé un label il y a quelques années pour essayer de valoriser la production qui est faite en France. Une commission commerce et artisans de proximité. Alors ça, c'est pour les magasins de musique, parce que en fait, il faut penser qu'on est tout un écosystème et qu'il faut essayer de préserver tout le monde et que tout le monde ait à sa place. J'ai sauté une ligne. Alors communication, excusez-moi, parce que malheureusement aujourd'hui, si on fait pas parler de soi, personne ne sait qu'on existe et on est isolé et on peut rien faire. Ce qui entraîne, ce qui nourrit la commission économie, parce que voilà. Bien sûr, on a une commission formation parce que c'est très important, comme on l'a vu, la formation. Et j'ai été navré d'entendre ce matin que pour l'horlogerie, on parlait d'un domaine où il n'y avait plus de formation. Alors, fort heureusement, nous, on a la chance d'avoir l'ITEM, qui est l'Institut Technique Européen des Métiers de la Musique, qui a été créé dans les années 70, qui est au Mans, et qui forme, on va dire, tous les maîtres luthiers de France et de Navarre, qui vont après aller dans des grandes maisons ou des tout petits magasins, parce que c'est pareil, des instruments de musique, c'est bien de les fabriquer, mais c'est pas du consommable. Des instruments qu'on garde au moins des dizaines d'années, voire des centenaires et bien plus, si on parle d'orgue ou d'instruments à cordes frottées. Autant vous dire que les violons les plus chers, c'est pas ceux qu'on fabrique actuellement. Et alors, on a une commission réglementation. Alors ça, c'est très important pour nous parce que... Alors moi, j'adore l'Europe. Je n'ai pas peur de le dire. Et je suis pour toutes les ambitions qu'elle a pu porter. On verra ce qu'elle fera dans l'avenir. Mais je veux dire, le fait d'essayer de... REACH, pour ceux qui connaissent, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est REACH, mais... Ça part d'un bon sentiment. L'idée, c'était de dire, oh, on a plus de 30 000 substances chimiques qu'on utilise tous les jours en Europe, et on n'a aucune donnée sur leur dangerosité ou quoi que ce soit. Donc, comme on est en Europe et qu'on a nos voisins outre-Rhin très organisés, on s'est mis à tout étudier et à contraindre toutes les entreprises, quelle que soit la taille, à avoir des FDS, enfin tout un système très très bien qui nous a montré au bout du compte que y avait plein de produits qu'il fallait pas qu'on utilise parce que c'était dangereux pour la santé. Donc super, sauf que on les interdit qu'en Europe et que nos voisins hors Europe, ils ont pas les mêmes obligations, mais par contre on importe leurs produits. Donc en fait on essaye de faire une course où on s'est accroché deux pieds ensemble et du coup on est à pieds joints quand les autres y courent. Donc ça, c'en est une. Une autre réglementation qui nous impacte énormément, c'est, et où on est très proactif, c'est la CITES. Donc la CITES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Convention internationale du commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées ou en voie d'extinction. Enfin bon, c'est pareil, il y a un site internet, CITES. Et alors pourquoi ? Parce que alors à la base, c'est pareil, alors ça c'est très bien, c'est... C'était une idée de l'ONU dans les années 70. Donc déjà, on a voulu arrêter les guerres, très bien, l'ONU. Et après, on a créé cette convention qu'on appelle aussi Convention de Washington pour essayer de sauver les rhinocéros, les éléphants. Et il faut la biodiversité. Et puis à partir de 1992, on s'est dit c'est pas suffisant. Les animaux, c'est bien, mais il y a aussi des arbres, des plantes. Et donc on a commencé à inscrire, par exemple, le palaisandre de Rio. Lors de la COP CITES qui avait lieu justement au Brésil, à Rio, en 1992. Et donc ce bois, il était utilisé pour le meuble, qui consomme pas mal, mais aussi pour les instruments de musique. Et d'un seul coup, on s'est vu privé d'une ressource. Et puis depuis 1992, chaque année, enfin tous les 3 ans pour être précis, parce qu'une COP ça a lieu tous les 3 ans, il y a des nouvelles espèces qui sont inscrites, ce qui fait qu'aujourd'hui à la CITES, il y a plus de pratiquement 40 000 espèces qui sont réglementées. Et réglementer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les tuer ou de couper les arbres dans son pays, ça veut juste dire qu'on n'a pas le droit de les faire changer, faire franchir une frontière. Donc voilà, on est très actifs auprès de la CITES parce qu'on pense vraiment que la pratique d'instruments de musique de qualité... Non, ouais, c'est ça que j'aurais dire plutôt. Donc on ne veut pas rentrer dans l'instrument poubelle qu'on jette au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. On veut continuer à faire des instruments de qualité. Les matériaux qu'on utilise pour faire des instruments aujourd'hui, c'est le résultat de centaines d'années d'essais et erreurs pour trouver le meilleur matériau, pour qu'il soit le plus durable possible, pour qu'ils aient la plus haute performance, pour accompagner les musiciens dans leur prouesse, pour pouvoir suivre les fantaisies des compositeurs qui ont toujours plus d'idées, j'espère qu'ils continueront à en avoir. Et donc, pour nous, c'est totalement conciliable de... Enfin, ça devrait être un cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des instruments de qualité et on aide à conserver cette biodiversité, et pas l'inverse. Et donc... Voilà, donc la réglementation et l'accès. Et du coup, alors bien sûr, il y a tout le côté matériaux alternatifs sur lequel on travaille, mais la temporalité est forcément longue. Et il faut qu'on nous laisse la chance d'arriver à converger vers une solution. Voilà, j'ai mon téléphone qui s'est éteint. Je ne dis pas depuis tout à l'heure.
Peut-être.
Ah oui, genre je finis, excusez-moi. Bon, on a une commission patrimoine, une commission transition écologique, et je vais en rester là. Et sinon, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, donc je suis également directeur recherche, développement et innovation d'une jeune entreprise qui fête ses 200 ans cette année et qui s'appelle Buffet Crampon.
Merci beaucoup, Michael. Ça nous donne des pistes, ces commissions de la... Chambre de la facture instrumentale aussi, de réflexion. Peut-être nous permettre aussi de revenir dans le périmètre de la manière dont on peut animer ces filières avec Fanny, avec Alice, avec Alina, avec Lara, sur cette filière dans le cadre du programme ICAR, c'est-à-dire des pistes de recherche, des pistes de, évidemment de réflexion, de recherche, c'est-à-dire en termes de création de connaissances. Donc cette première journée sur le geste nous a permis d'avoir un espèce d'aperçu, de panel, de voir comment on pouvait affiner des définitions, trouver des catégories, analyser des pratiques, les rendre accessibles, les conserver, les documenter, les informer, y compris par le moyen informatique, numérique, digital, l'acquisition numérique, mais aussi, et c'était tout le fait de Arnaud Dubois et de le documenter avec une approche également en sciences humaines sociales, anthropologiques, ethnographiques, voire auto-ethnographiques. Ce que je vois aussi émerger sont des problématiques évidemment très actuelles. On a parlé de l'innovation, on a parlé de la version 4.0 du travail, de voir comment ces problématiques-là arrivent, et à travers le matériau, les problématiques qui sont sur la responsabilité environnementale, qui sont cruciales parce qu'on se trouve des fois face à des contradictions. On parle de l'impact carbone, on parle de réchauffement, on parle d'utilisation rationnelle de matériaux, mais en même temps avec des contraintes métiers qui font que sur des temporalités courtes, il y a des moments où il faut chauffer du matériau et on est obligé d'atteindre un certain degré. Et là, les lois de physique, j'ai envie de dire, deviennent un peu incontournables sur les questions énergétiques. Et on a besoin d'avoir des matériaux que, comme tu le disais tout à l'heure, Michael, il y a un moment donné où on a expérimenté 300 essences dans l'histoire de la facture de tel ou tel type d'instrument pour sélectionner la meilleure en termes acoustiques, de propriété, de rayonnement, d'homogénéité aussi de l'instrument. Et on se trouve face à des contraintes comme ça de renouvellement. Peut-être que là aussi, même si aujourd'hui les substituts ne sont pas bons, ce sont autant de pistes pour nous, pour une prochaine réflexion de journée, évidemment, accélération, mais aussi d'orientation, de projets d'innovation, par exemple.
Juste peut-être aussi pour rebondir, Jean-François, par rapport à ce qui est ressorti de cette journée, et je pense qu'il va être important aussi d'aborder dans le cadre d'ICAR, c'est tout ce qui relève des freins aussi, parce que l'enjeu d'ICAR aujourd'hui, c'est de faciliter le dialogue entre les professionnels, les chercheurs, etc. Mais c'est vrai que souvent, on est sur des temporalités différentes, sur des langages qui sont assez différents. Le langage des entreprises, des professionnels, des métiers d'art n'est pas le même que celui des chercheurs. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet enjeu d'arriver à trouver un langage commun, en tout cas faciliter la communication entre ces deux périmètres-là, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et puis on échangeait aussi sur certains freins qui sont des fois au niveau des professionnels, comme le disait Mathilde, qui peuvent être réticents à certaines nouvelles technologies. Mais des fois, les freins viennent aussi des utilisateurs finaux. Et Mickaël nous en parlait aussi en off, la dernière fois, c'est aussi, les musiciens, ils sont parfois, mais t'en parleras mieux que moi, mais ils ont parfois une certaine attaché à une certaine tradition de l'objet, du matériau, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi un frein parfois pour innover, alors que les entreprises des métiers d'art, comme l'a très bien dit Anne, on a 1000 exemples d'entreprises extrêmement innovantes dans le secteur des métiers d'art, que ce soit au niveau des matériaux, la recherche de nouveaux matériaux. On est sur des professionnels qui maîtrisent quand même extrêmement bien la matière, c'est ce qu'ils travaillent au quotidien, et donc ils ont une connaissance très fine et très précise de la matière, et ce qui leur permet d'aller assez loin en termes d'innovation de matériaux. Historiquement, on est sur des matériaux plutôt nobles, plutôt naturels, mais on voit de plus en plus aussi de recherches et de professionnels qui s'approprient aussi des nouveaux matériaux, y compris des déchets, puisqu'on a aussi beaucoup d'initiatives de revalorisation des déchets dans les métiers d'art. Donc ce sont des métiers extrêmement innovants. Donc il y a à la fois l'enjeu de valoriser ce qui se fait déjà dans le cadre d'ICAR, et je pense qu'on va avoir pas mal de matière pour alimenter ces journées, mais aussi d'arriver à parler des potentiels problèmes problématiques et des freins qui peuvent exister pour trouver des solutions ensemble pour lever ces freins-là.
Alors, je suis complètement d'accord. Et je pense que les métiers d'art, encore une fois, c'est... Parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on défend une excellence française. Moi, j'ai découvert donc les 80% en région, là, et j'ai découvert, au début, je crois que c'était des millions d'euros, mais non, c'est des milliards, 65 milliards d'euros. Bravo, quand même. Quoi.
Enfin,
68, autant pour moi. Donc, il faut faire en sorte, même si on n'était pas dans le passé, qu'on devienne... exemplaire, c'est-à-dire il faut qu'on soit responsable, on a notre responsabilité, on consomme des ressources, et ben il faut qu'on assume et qu'on soit pas responsable de que nos arrière-petits-enfants ne connaissent pas un éléphant. Non, alors, non, je rigole à moitié, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple dans le passé, c'est clair que dans l'exemple du piano, ben, les musiciens, tant qu'ils pouvaient avoir des touches en ébène, donc les touches noires, et des touches en ivoire, ils préfèrent acheter ça que des autres matériaux. Alors que, est-ce qu'on voit vraiment la différence? Alors je suis d'accord, le musicien, il va sentir un toucher un petit peu différemment, mais il pourra quand même performer. Donc, quand on peut le remplacer, il faut qu'on soit OK aussi, il faut qu'on fasse cette démarche-là. Et donc, je parlais d'écosystème tout à l'heure, et c'est vrai. Et donc nous, notre end-user, c'est le musicien, et derrière lui, il y a encore notre... acteur, c'est vous, c'est le public qui allait le voir en concert, qui regardait ses... Ouais, non, pas qui regardait, qui allait voir ses concerts, c'est bien. Et donc voilà, et je voulais aussi revenir sur la formation, parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de certification, et en fait, moi, les échos que j'ai, en tout cas dans ma filière que je représente, et l'ITEM notamment, c'est que... on a la chance, l'ITEM fait des BMA et des DMA, des brevets de métiers d'art, diplômes de métiers d'art. Et en fait, ce qui apparaît depuis quelques années, c'est plutôt une dérégularisation où on voit émerger plein de formations de tous les côtés, non diplômantes, et qui viennent concurrencer et mettre en danger l'équilibre et la stabilité de nous, ce qui est notre centre de référence, l'ITEM. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. On a déjà quelques pistes et si vous voulez, on se tourne un peu vers la salle, savoir si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez intervenir, si vous avez des questions à nous poser. Ce qu'on peut dire peut-être pour rebondir, c'est que finalement, cette idée, sans plaisanter, hein, je crois que cette idée au sein du programme ICAR, elle est pas mal, hein, d'avoir fait ces filières et ces journées d'accélération. C'est quand même bien, non mais c'est bien pensé dans le sens où ça permet de se regrouper sur le continu, de créer le contact. Aujourd'hui, c'est la première pierre, on va dire. Mais d'avoir ce contact et peut-être d'anticiper pour les questions de temporalité. Temporalité de recherche ne sont pas les mêmes de la temporalité de l'entreprise. Se voir en amont, ça permet peut-être déjà d'anticiper et d'articuler des choses au niveau de la recherche. On peut commencer déjà du chantier, on sait qu'on a des points de contact. On dit bon, on vous laisse tranquille, vous inquiétez pas, mais nous on essaie de maturer un truc. Et puis quand on est prêt, hop, on arrive. Michael, toi, je sais que tu articules certaines choses au sein d'un LabCom, c'est-à-dire des rapprochements entre entreprises et laboratoires de recherche. Donc, ce sont des nouveaux outils qui existent. On peut créer des laboratoires communs entre l'université et une entreprise privée qui permet justement d'inscrire sur certaines thématiques un peu ciblées des temporalités communes et d'essayer d'avoir un calendrier de résultats un peu plus ciblé. En tout cas, sur les journées d'accélération, le but, c'est vraiment ça, c'est d'accorder les différentes temporalités et de se mettre en ordre de marche au bon moment lorsque de l'appel à projet survient, lorsque des opportunités de collaboration arrivent pour nous permettre d'avancer.
Oui, bah, tu as dit beaucoup de choses que j'ai... Enfin, alors pour appuyer ton propos... Enfin, c'est pas la même temporalité. C'est clair qu'il y en a un, c'est un TGV, et l'autre, il est à pied, quoi. Enfin, les artisans.
Je crois que c'était le chercheur qui était à pied.
Ah oui, enfin. bon, moi, tête, après, je ne sais pas quel point de vue. On peut donner des arguments dans les deux sens, mais en tout cas, moi, j'ai de la chance d'être dans une entreprise importante, on va dire. Et donc on a des personnes dédiées à la recherche et développement. Donc c'est le cas pour, on va dire, peut-être les trois plus grandes françaises, quoi. Mais tous les autres, c'est, enfin, je veux dire, déjà comprendre comment fonctionne le chercheur, qui emploie un jargon certes précis pour lui parce qu'il l'a appris, mais pas forcément intuitif. Moi, j'ai des gens, quand j'ai rencontré les gens de la communauté musicale, ils me parlaient de résonateurs, de tuyaux. Je fais des clarinettes. Et en fait, c'est ce qu'il voulait dire, mais j'avais pas compris. Il me parlait de rayonnement. Je me suis dit, oulala, ça peut être dangereux. Ben non, il parlait du son. Enfin, bon. Donc, déjà, il faut s'apprivoiser. Mais si on n'a pas de personnel dédié, comment on fait pour s'apprivoiser? Et donc, là, je pense que c'est vraiment au monde académique, entre guillemets, au monde de la recherche, de se mettre au niveau. Parce que si on attend l'inverse, ça ne marchera pas. C'est tout.
Je crois que le message est passé, en tout cas. Et on essaye, d'avoir de plus en plus d'initiatives. En tout cas, il y a les programmes de l'Agence nationale de la recherche qui déjà préfigurait un certain nombre d'éléments de ce type. Les LabCom, que tu connais.
Ouais, mais alors, l'accord de consortium du LabCom, alors là, dédicace à l'ANR, faites quelque chose, quoi.
Et enfin, ce PEPR, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui.
C'est un sujet assez complexe, l'attractivité, parce qu'effectivement, c'est déjà assez variable d'un métier à un autre. Et en fait, il y a des dimensions assez différentes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus d'initiatives, de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui valorisent les métiers d'art, ce qui est une très bonne chose. Et on voit d'ailleurs que leurs actions portent leurs fruits, hein, parce que, voilà, il y a quand même 38% de salariés qui ont moins de 35 ans, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, ce qui est important. Donc ce sont des métiers qui attirent les jeunes. Après, il y a une question aussi de perception des métiers, sur laquelle on aimerait aussi beaucoup travailler à l'Institut et sur laquelle on prévoit de travailler cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des perceptions des métiers qui sont assez différentes selon les publics, et on a peu de données là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont quand même encore un petit peu dévalorisé parce que métier manuel, et parce qu'on a encore des témoignages de jeunes qui nous disent que c'est un peu difficile auprès des parents, qu'on est encore dans une société quand même qui valorise beaucoup les études, etc. Donc il y a quand même cet enjeu-là. On voit aussi des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Donc ça, c'est aussi une réalité, parce qu'on a parfois des jeunes qui s'orientent vers ces métiers un peu avec les étoiles dans les yeux. Et en fait, quand ils se confrontent vraiment à l'exigence du métier, parce que ce sont des métiers exigeants, il y en a quelques-uns qui déchantent. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est de valoriser une image juste de ces métiers, c'est-à-dire pas les survendre, expliquer en fait que ce sont des métiers incroyables, que ce sont des métiers de passion, on le dit souvent, et les professionnels sont passionnés, mais il faut aussi de la passion parce que ce sont des métiers exigeants et parfois difficiles. On parlait de pénibilité aussi pour certains métiers, donc ça, c'est une réalité qu'il faut pas négliger non plus. Donc la question de l'attractivité est assez complexe, et c'est vrai qu'à l'Institut aussi, on trouve qu'on manque de données justement pour voir dans quelle mesure, quelle est la vraie image de ces métiers auprès du grand public, Et en fait, voilà, est-ce qu'il y a des distinctions suivant les territoires? Est-ce qu'il y a des distinctions suivant les catégories socio-professionnelles? Comment ils sont perçus par les jeunes, par les parents? Il y a aussi tout l'enjeu de la reconversion professionnelle. Là, on voit que 4 dirigeants sur 10 sont des reconversions. Donc là, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est soit des métiers qui ont été plus valorisés ces dernières années. Donc du coup, les gens se tournent vers ces métiers qui sont aussi des métiers qui font sens. Il y a une vraie quête de sens aussi aujourd'hui hein, dans le travail. Donc ça attire aussi des profils comme ça. Ce sont des métiers aussi sur la reconversion qui ont l'avantage, entre guillemets, de permettre aux personnes en reconversion d'exercer en indépendance. Souvent, c'est un choix qui est très lié. Hein. C'est que du coup, ils exercent aussi en indépendant et qu'ils sont un peu maîtres de leur profession. Donc c'est toutes ces questions-là sont importantes, mais la reconversion, ça peut aussi traduire, et c'est une interprétation, des vocations qui ont été empêchées au départ. Donc ça peut être aussi des personnes en fait, qui étaient attirées par ce métier depuis longtemps, mais qui ont eu besoin de passer par une autre profession, un autre secteur, pour finalement revenir entre guillemets à des premiers intérêts, mais voilà, en fait, il y a plusieurs interprétations possibles derrière ces données, mais voilà, en tout cas, l'attractivité est un sujet très important, un enjeu très important qu'on va adresser, mais qui est assez complexe.
Alors, j'aimerais rebondir là-dessus, simplement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu des campagnes pour revaloriser l'artisanat, il y a des années cela. Du fait que nous, on est ouvert au public, on a direct les infos qui nous viennent de nos visiteurs. Et définitivement, depuis le Covid, les métiers d'art sont à la mode. C'est mode. Et c'est pour ça que l'on parle de ces problématiques d'attractivité des gens, parce qu'on sait que ça peut rester une mode et disparaître tout aussi vite que c'est venu. Donc c'est pour cela qu'il faut finalement... se servir de ce moment où les gens nous regardent, les gens parlent de nous, pour essayer d'asseoir et faire comprendre ce que sont nos métiers d'art et la beauté du métier d'art et le fait que, par exemple, pour le verre, c'est le matériau qui a été créé par l'homme, le premier matériau créé par l'homme et qu'il a 3500 ans, etc. Mais... c'est pour cela que tout le monde parle de l'attractivité. C'est pour ça qu'on est angoissé par cette attractivité de nos métiers, parce qu'on sent une mode. Donc, il faut qu'on maximise là-dessus.
Moi, je veux bien rebondir aussi, parce que il y a cette question de l'engagement qui est très importante. C'est des métiers très engageants, en fait. C'est pas le tout d'être formé, d'apprendre un métier. Il y a souvent une attente de reprise derrière. Qui ne vient pas toujours. Il y a vraiment cette question de l'engagement qui n'avait pas toujours été évaluée au départ, en fait. C'est comme agriculteur. On ne choisit pas cette voie juste en se disant « je vais essayer pendant 2 ans, ce n'est pas possible ». Et puis, il y a la question de la formation et de la disponibilité de la formation. En fait, il y a une hyper-segmentation quand même des métiers d'art, on l'aura compris. Il y a quantité de métiers, il y en a certains qui sont visibles, qui sont connus, mais il y en a d'autres qui sont... invisible et complètement méconnu. Et après, se pose une dernière question, où est-ce que je peux me former ? Il y a des formations qui n'existent plus sur certains métiers. Il y a beaucoup de formations qui sont uniques en France sur d'autres métiers. Et donc, un jeune qui a 15 ans, est-ce que ses parents le laissent partir à l'autre bout de la France pour apprendre un métier ? Enfin, ça pose en réalité quantité de questions. Donc, l'attractivité... c'est effectivement un très gros sujet et qu'on est loin d'avoir résolu. Et c'était nous, en tant que GIP et qu'organisme de formation, c'était une de nos volontés sur le projet ressources. C'était vraiment de travailler sur l'offre de formation sur les métiers d'art, parce que ça nous semble être un cas important et exemplaire, mais sur quelle offre de formation on propose aux jeunes en recherche de vocation et d'orientation.
Alors sur les questions plus spécifiques effectivement de formation, ça sont des sujets qu'on peut aborder au sein d'un second réseau, si je puis dire. Comme on le précisait tout à l'heure, qui est le réseau des campus des métiers, qui est structuré nationalement. Et en fait, les questions sont systémiques. Hein. Donc je veux dire, on est sur un cadre où là on parle, disons, sur des éléments plutôt dits de recherche et de recherche appliquée, puisqu'on est en stratégie d'accélération. Donc la question de l'éducation étant une question d'ordre sociologique, elle mérite en soi une recherche, ce que tu disais aussi, Fanny et toi, Mathilde, hein, avoir des remontées d'indicateurs et de nature sociologique sur les éléments à dispo. Mais la mise en œuvre aussi, et la mise en réseau, et la réflexion sur ce que vous demandiez, une sorte de cartographie aussi des formations nationales, ça, c'est typiquement quelque chose que peut faire le réseau des campus des métiers et qualifications, qui est structuré nationalement, et des questions qu'on peut porter à l'ordre du jour d'une réunion du réseau pour se mettre en synergie avec d'autres instituts et commencer à élaborer quelque chose dans ce sens-là. Ces cartographies existent, hein, par ailleurs dans les régions, et on peut les mettre à jour, on peut les solliciter, et c'est le travail aussi des campus de les rendre accessibles. Sur l'ensemble de la journée, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est une actualité tout à fait riche en termes de rencontres interdisciplinaires. On a vu que les aspects digitaux, computationnels, numériques sont fondamentaux, sont présents, s'emparent de ces sujets-là. On a vu aussi que la dimension humaine, et c'était aussi la thématique de la journée, l'investissement du corps, la réflexion autour du geste, la question de la définition fondamentale du faire, elle était aussi au centre du sujet, et que tout ça ne pouvait pas se penser hors du cadre professionnel. C'est dans tous les cas de figure, finalement, qu'on a vu aujourd'hui, on a toujours une relation directe avec soit la situation, j'ai envie de dire qu'on fait des études in vivo, et donc la situation en train de se faire, ou en tout cas la question de la mise en œuvre métier, savoir-faire, entreprise. Et donc là-dessus, on a été vraiment au centre de ces problématiques et de la filière de l'ICAR Lab et du PEPR ICAR. Pour les prochaines journées, on a déjà des pistes de réflexion pour continuer à la fois à essayer de voir dans certaines branches. On a entendu à certaines reprises, c'est un sujet sur lequel il va bien falloir aussi aborder ces questions-là, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de l'apprentissage. Mais c'est évidemment quelque chose qui va rentrer aussi dans la catégorie peut-être des freins potentiels. C'est-à-dire que c'est un grand sujet aujourd'hui qui commence à toucher beaucoup de secteurs, y compris pas que sur le savoir-faire lui-même, mais y compris sur la manière de gérer une entreprise, de comprendre des processus, l'économie, de créer son contact, de créer du contenu de contact aussi. Vous nous parliez tout à l'heure de l'IA utilisée pour les différentes traductions. Et puis cette question des matériaux, il y a aussi beaucoup de chercheurs actuellement qui travaillent dans le domaine des matériaux, y compris en archéo, donc c'est très intéressant. Ces liens qu'il y a, vous nous parliez du verre tout à l'heure, qui a 3500 ans, la poterie, la céramique, le bois, sont des travaux actuellement qui sont en train d'émerger, qui sont très intéressants, justement sur la manière dont, et à travers les âges, et aujourd'hui, on peut classifier ces matériaux. Et à côté de nous, pas très loin d'ailleurs, il y a le conservatoire, le centre de restauration nationale des œuvres, qui est juste là dans la rue en montant, qui travaille beaucoup justement sur les inventaires d'essence de bois, voire de parasites, des bois, parce que pour pouvoir restaurer certaines pièces, ils veulent savoir exactement quel type de parasite est allé dans le bois et l'a rongé pour pouvoir le réarranger, etc. Donc ça nous fait autant de pistes de réflexion. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut... Oui, Michael.
Alors, juste une dernière chose, parce que du coup, ça rejoint... la facture instrumentale, en tout cas, n'est pas vraiment familière des outils digitaux ou de... Enfin, encore une fois, bravo à ce matin ceux qui ont présenté tout ce qui a été fait en représentation, le film. Enfin, ce qu'on connaît pas fait peur. Donc, si on veut que ça soit adopté et qu'on puisse justement faire des projets ensemble, il faut vraiment une formation ciblée. Et ne serait-ce que par moi, dans mon cas. Même les enseignants de musique, les profs de musique dans les conservatoires. Le conservatoire, ça date de Napoléon. C'était un but pour devenir professionnel. Enfin, ça diverge de la réalité des choses. Et donc, il faut vraiment accompagner ces gens-là. Parce que si on cherche directement les nouveaux élèves sans les avoir mis dans la boucle avant, ça sera un refus catégorique. C'est la première chose que je voulais dire. Et que... Oui, l'IA, ça paraît séduisant, et si on peut parler 28 langues en 56 secondes, c'est génial. Alors, j'ai entendu parler d'un projet de loi, pas chez nous, fort heureusement, qui viserait à enlever les droits d'auteur pendant un certain temps, mais bon, quand même pour enlever les droits d'auteur, pour nourrir des IA génératives, pour faire de la musique plus facilement, sans compétences ou quoi que ce soit. Donc forcément, il y a un collectif d'artistes qui sort un album, je sais plus comment ça s'appelle, pardon ? Enfin bon, c'est un album, en fait, il n'y a rien dessus. Mais en fait, ça veut dire, allez-y, continuez comme ça, et puis de toute manière, l'IA, elle peut utiliser du contenu existant et proposer des nouvelles choses, mais demain, il n'y aura plus personne qui fera du contenu original si vous continuez comme ça. Et donc c'est une vraie question. Je pense Einstein, il était plein de bonnes intentions quand il a trouvé la fission nucléaire. Et donc voilà, c'est tout ce que je dirais.
Merci, merci Michael. Mais c'est une vraie question. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui et qu'il faut aborder et qu'il faut essayer de traiter et aussi de voir comment on peut arriver à articuler ça. Et ce sont des questions qui sont évidemment au centre, bon, si ceux qui sont un peu comme nous impliqués aussi dans ces aspects créatifs et justement dans la formation, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité aussi envers les jeunes qu'on forme aujourd'hui dans ces filières-là et vers quoi on les forme, vers quel monde futur. Donc ça, c'est au centre de ces préoccupations-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous, encore une fois. Merci à la Friche Belle de Mai de nous avoir accueillis. Merci au programme ICAR d'avoir permis cette journée. David Cœur-Joly, Solveig Serre. Un grand merci à Marion Brizin et à Hyacinthe Belliot qui est avec nous, qu'on peut applaudir très fort pour l'organisation de la journée et pour faire tout le suivi. Merci à Voto qui est derrière pour la captation de la journée. Merci beaucoup. Et excusez-moi, je n'ai pas votre nom, mais pour la technique, Guillaume. Merci Guillaume pour la technique. Un grand merci Anne pour votre présence. Merci Michael pour votre présence. Merci à tous les intervenants et merci à toute l'équipe de la filière. Bonne soirée à tous.